En 1830, la jeune Belgique a choisi comme emblème de son indépendance le lion, symbole de courage, de puissance, de force et de liberté, qui était représenté depuis le Moyen-Âge sur tous les blasons des provinces belges. Dans ce podcast, nous ne vous parlerons pas des lions, mais bien des lionnes. Ces femmes belges inspirantes qui ont fait par leur talent avancer notre petit royaume d'hier à aujourd'hui.
La lionne allie vitesse et puissance. Dans la savane, elle est reine en son royaume.
Bonjour, c'est Karine Claire, vous écoutez Les Lionnes, un podcast sur les femmes qui ont fait ou qui font bouger la Belgique. Aujourd'hui, nous allons vous parler des actrices avec Jeannine Godinas, France Bastoun et Leila Charani.
Qu'est-ce qu'elle fait ta maman? Tu sais, Ludy?
Elle joue.
Elle joue comme toi? Tu joues à la poupée?
Non.
C'est quoi alors?
Elle joue une pièce de théâtre, ce n'est pas la même chose.
C'est quoi? Tu sais pas ce que c'est, jouer une pièce de théâtre?
Non, c'est plus difficile que jouer à la poupée.
Ce que c'est pour moi que le théâtre, c'est ma vie, enfin c'est mon travail.
Alors, est-ce que vous pouvez me citer 10 actrices belges d'hier ou aujourd'hui qui vous ont impressionné un jour?
Jeannine Godinas.
Ah non, Jeannine Godinas.
Jacqueline Beer.
Mais Micheline Hardy, bien sûr.
Martine Milquet.
Véronique Bieffenau.
Valberg.
Nicole Valberg.
Alors, qui?
Nicole Valberg.
Anne Marève.
Babette Dasaggio.
Manuela Servet.
Magali Pinglot.
Florence Cric.
Anne-Pascal Clérambourg.
La mémoire des noms, c'est horrible, parce que je vois toutes leurs images.
Oui, France Bastoun.
Anne Chapuis.
Ingrid Edersheide.
Pour cette nouvelle série d'épisodes des Lionnes, j'ai choisi de vous parler de ces femmes qui nous représentent sur scène ou à l'écran et qui incarnent la comédie de la vie, les actrices. Audacieuses, brillantes, indépendantes, intelligentes, elles ont su faire vibrer nos scènes et nos cœurs grâce à leur talent et leur sensibilité. Nous allons commencer avec 2 épisodes sur les actrices de théâtre qui travaillent dans nos contrées pour enchaîner plus tard sur les actrices de fiction. Nous aborderons la place de l'actrice dans l'histoire du théâtre européen et plus particulièrement en Belgique. Et nous chercherons ensuite à comprendre ce qu'est véritablement une actrice en explorant les aspects professionnels, personnels et sociétaux de ce métier en Belgique. Ce podcast nous donnera l'opportunité d'explorer leur vie quotidienne sur nos scènes de théâtre ou nos plateaux de tournage. Comment devient-on comédienne? Quelles sont les qualités essentielles requises? Qui sont-elles en dehors de leur métier d'actrice? Comment font-elles face à l'incertitude inhérente au métier artistique? Comment créent-elles leurs personnages? Comment évoluent-elles avec l'âge? Et puis, dans la bulle de rose, nous mettrons également en lumière des figures majeures de notre petit pays, souvent méconnues du grand public.
Je vais faire du théâtre.
Tu n'es pas sérieuse?
C'est très sérieux. Faut coucher quand on veut faire l'actrice.
Excuse-moi, tout le monde le sait.
Nous chercherons à voir comment les choses ont évolué depuis le 19e siècle et quels moyens nous nous donnons ou aimerions nous donner aujourd'hui pour offrir les mêmes opportunités aux comédiennes qu'aux comédiens. Nous parlerons donc de ce métier si particulier où l'on est dans le désir de l'autre, en partageant avec des actrices de notre petit royaume des anecdotes et des réflexions sur leurs réussites, leurs difficultés, leurs défis. Ce podcast sera l'occasion de plonger dans des parcours inspirants qui abordent un métier qui en fait rêver plus d'une. Bref, aujourd'hui, nous allons parler des actrices.
Alors pour commencer, intéressons-nous à l'origine du mot « actrice », acteur au masculin. Ce terme trouve ses racines dans le latin « actrix », qui signifie littéralement « celle qui agit »,« agere », »,« agir ». Au Moyen-Âge, on parlait d'« actoresse ». Ainsi, une actrice est celle qui mène, qui agit, qui joue un rôle et qui interprète un personnage. On dit que l'actrice, l'acteur, joue la comédie, et que la comédie, c'est l'art d'interpréter un rôle, qu'il soit comique ou dramatique, de simuler quelque chose, comme un sentiment, une volonté, des enjeux, voire une maladie. Le métier d'actrice se déploie à travers différents outils artistiques. Le corps en mouvement, la voix et les émotions deviennent les vecteurs qui donnent vie à une histoire. Que ce soit sur scène, devant la caméra ou derrière un micro, les actrices déploient leur talent et leur créativité pour incarner des personnages fictifs qui vont nous captiver. Leur capacité à se glisser dans des rôles et à transmettre des émotions est essentielle pour établir une connexion profonde entre les personnages qu'elles incarnent et nous, le public. Le métier d'actrice va bien au-delà d'un simple travail.
C'est une véritable vocation qui demande un travail acharné, une passion ardente et une recherche constante de perfectionnement. Grâce à leur engagement et à leur talent, les actrices enrichissent notre expérience émotionnelle, intellectuelle et culturelle en nous transportant à travers les différentes dimensions de l'imaginaire.
J'ai voulu le croire lui parce que je l'aimais. Je croyais les mots de l'homme que j'aimais. Je croyais l'amour avant les mots. L'amour comptait bien plus, il est d'un autre monde que les mots. Eux, avec leur raisonnement et toutes ces pensées qu'ils traînaient, c'était comme si l'amour avait émoussé les raisonnements et les pensées, même la plus terrible, qui me torturait chaque nuit. La pensée de mon mari organisant des travaux de construction, la même où l'on mettait à mort délibérément des êtres humains. L'amour avait tenu la pensée comme en suspens. La vérité est une chose terrible. Trop terrible quelquefois pour que nous puissions vivre avec elle.
Jeannine Godinas, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes une des grandes figures du théâtre francophone en Belgique. 60 ans de carrière, comédienne de théâtre et metteuse en scène. Vous avez joué à peu près sur toutes les scènes belges et avec tous les grands metteurs ou metteuses en scène belges. Votre jeu d'actrice a été et est toujours aujourd'hui salué pour son originalité, sa sensibilité à fleur de peau, sa profondeur et sa capacité à transmettre les émotions les plus complexes. Avec une voix qui n'appartient qu'à vous, un regard d'eau qui peut jouer toutes les nuances, vous nous faites le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce métier que vous connaissez mieux que personne.
J'en ai marre de ces couples. Ces couples qui te sautent dessus sans arrêt parce qu'ils supportent pas la vie à eux. Marre de ces célibataires avec leur baratin mensonger sur la liberté. Marre de ces artistes, ces parasites qui enchaînent les bourses et qui élèvent les petites aventures fades qu'ils ont entre eux au rang de drames intimes et engagés et polluent ainsi l'atmosphère. Marre des alcools, marre des cocaïnes, marre de ces greluches de la production culturelle, ces abeilles industrieuses avec bac mention très bien et des requins. De ces politiques méchantes créatures qui, tous les matins, croient avoir une idée de l'art parce que maman les a traînés un jour dans une expo de Folons quand ils avaient 12 ans. De ces actrices, de ces auteurs de romans de 1000 pages, marre de ces cosmopolites, ces donneurs de leçons à la barbe de 3 jours, marre de ces sympathiques, de ces vieux schnapps de galeries.
Romaniste, issu du conservatoire de Bruxelles, passionné de mots et de lettres, vous les servez depuis maintenant plus de 20 ans sur nos scènes avec des metteurs en scène comme Dominique Seron, Georges Ligny, Philippe Sireuil ou encore Jean-Baptiste Delcourt. Vous avez reçu le prix Materlinck de la critique 2022 de la meilleure interprète pour le sublime Girls and Boys et pour Mademoiselle Agnès. Le théâtre, vous l'avez dans la peau. France Bastoun, bonjour.
Bonjour.
Honnêtement, je vois pas bien où tu veux en venir. Je connais bien ce genre de discussion en mode demi-conseil, demi-confession, demi-tentation. Ah, tu veux voir mes seins, c'est ça ? Avant de signer mon contrat ? Ça te plairait bien, non ? De voir mes seins. À un moment donné, pendant la tournée. Alors pourquoi pas maintenant ?
Vous êtes comédienne, mais aussi chanteuse du duo Kroll, que vous formez avec Amandine Chevigny. Vous êtes fraîchement diplômée du conservatoire de Mons, et pourtant déjà meilleur espoir au prix Materlinck de la critique en 2022 dans Charlotte de Michel Fabien, mais également dans Qui a peur de Tom Lannoy et Phèdre de Racine.
Le prix du meilleur espoir est attribué à Leïla Charani.
Vous êtes à l'aube d'une carrière prometteuse. Leïla Charani, bonjour.
Bonjour.
Alors, bienvenue à toutes les trois dans ce podcast Les Lyonnes. Je suis vraiment ravie de vous recevoir sur notre plateau pour partir à la découverte de votre métier. Alors, Jeannine Godinas, avec Jacqueline Beer, Nicole Valberg, vous faites partie des aînés de notre profession. Est-ce que vous pouvez nous partager les débuts d'une jeune comédienne à Bruxelles dans les années 60 ? C'était comment ?
Voilà que je suis comédienne. Je ne sais pas quand ça
à quelle époque ça m'a pris. Je crois que depuis que je sais parler, je veux faire du théâtre. Contre mes parents, évidemment, parce que c'était presque de la prostitution. Donc il n'était absolument pas question de faire ça. Donc j'ai fait ma petite valise, je me suis enfuie. Et voilà, c'est un peu comme si le théâtre m'avait plus happé qu'autre chose. Et donc depuis que j'ai 17 ans, je fais ça et j'en fais toujours. J'ai commencé au Théâtre de l'Enfance, chez Thaune. Enfin, Thaune était directeur du Théâtre de l'Enfance. Et j'ai commencé à faire du théâtre pour enfants. J'avais vu dans les valves du conservatoire de Bruxelles qu'on cherchait un petit garçon, figurez-vous, pour jouer un petit garçon dans une pièce. Et je me suis dit, oh, je ferais bien un garçon. Et ils m'ont pris tout de suite. Et j'ai commencé comme ça. Et puis après, j'ai fait danseuse nue.
Danseuse nue ?
Oui. Au Vaudeville, dans les galeries Saint-Hubert. On faisait des spectacles, des revues. Et j'ai fait la danseuse nue aussi. J'ai beaucoup aimé ça.
Et c'était vous avez suivi une formation ou vous êtes autodidacte ?
Pas du tout. De danseuse nue ?
Non, de comédienne.
Non, j'ai fait le conservatoire de Bruxelles. Mais je dois quand même dire que je n'y ai rien appris. J'ai appris avec des comédiens qui jouaient beaucoup aux galeries, par exemple, des gens qu'on ne connaît plus aujourd'hui, que vous ne pouvez même pas connaître, je pense, qui s'appellent Victor Guyot, Jean-Pierre Loriot, Serge Michel, des rigolos, les tout gros rigolos, Christiane Lenain, enfin, des gens formidables. Et j'ai appris mon métier là, en fait.
C'était une grande dame du théâtre chez nous, Christiane Lenain, partageait sa passion des planches. Pendant plus de 35 ans, ses yeux bleus transperçaient toute la salle jusqu'au dernier rang. Christiane Lenain interprétait avec beaucoup de classe le registre comique. Marianne Caric.
Bonjour les enfants.
Christiane Lenain n'avait que 19 ans quand elle a été remarquée par Jean-Pierre Rey, alors directeur du Théâtre des Galeries. Elle débute en 1954 dans La Dame de chez Maxims de Feydeau.
Je ne vous connais pas, mais pourquoi êtes-vous dans mon lit ?
Les créatures marines.
Ce sont les vaudevilles qui ont fait son extraordinaire popularité. Mais cette comédienne hors pair savait aussi bien jouer les drames intimistes comme Abélard et Héloïse avec Raoul de Manet.
Ils sont emportés par de brûlants sentiments.
Passion.
Sont emportés par la passion.
Christiane Lenain épouse Jean-Pierre Rey, son directeur. Avec ses deux complices, Serge Michel et Jean-Pierre Loriot, elle forme un trio qui attire les foules au Théâtre des Galeries. Elle est devenue la star incontestée du théâtre belge, mais sans jamais se comporter comme une vedette.
Ils ont examiné sa vésicule.
Oui, c'est ça, ils l'ont examiné. Alors pour les gars...
Ils ont fouillé ses reins.
Allez, père, venez.
Grâce aux captations télévisées, Christiane Lenain fait la joie d'un public qui ne va pas au théâtre. Sa Mademoiselle Bellemans, en 1961, fait un tabac et 18 ans plus tard, elle joue la mère de Suzanne que dans la reprise de la pièce.
Je parie que c'est encore une fois la boutonnière qui est déchirée.
Ben non, c'est simplement des faits. Vous devenez tellement grave, vous faites tout péter.
Alors, vous pouvez nous parler un petit peu de justement, par rapport à... Voilà, c'est vrai que nous, on ne les connaît plus, et dans l'histoire du théâtre...
C'était des stars, enfin des stars. Il faut savoir, vous savez sûrement que le terme star, c'est assez très neuf. Il n'y a pas toujours eu des stars, c'est faux. J'ai appris que c'était Sarah Bernard qui avait inventé ça. Elle l'a inventé elle-même, d'ailleurs. Elle en faisait tellement, elle voulait tellement qu'on la regarde qu'elle a inventé ça. Donc depuis, tout le monde voudrait devenir une star, mais c'est très neuf comme idée, ça, le star system. C'est encombrant, d'ailleurs, je trouve. Enfin, pour ceux qui doivent l'assumer. Loïc, qu'est-ce que je disais alors ?
Et on parlait justement de vos débuts et de ces gens que nous ne connaissons plus.
Oui, alors c'était des stars. Ils faisaient rire les gens. C'était des monstres, mais des monstres sacrés. C'était des magnificences. Christiane Lenain était une femme tout à fait extraordinaire.
Et donc elle jouait où ?
Elle jouait aux galeries. C'était d'ailleurs l'épouse du directeur du théâtre des galeries qui s'appelait Jean-Pierre Rey. Et elle jouait toutes les pièces, elle jouait tout. Et elle était fantastique. Donc j'ai rencontré ces gens-là et ils m'ont tout appris.
Et on parle de quelle période, c'est quelle date
Oh ben là, écoutez, je devais avoir une vingtaine d'années, donc j'en ai 82, donc Voilà. J'ai en fait travaillé beaucoup dans ce style de choses, dans le gros boulevard, danseuse nue, comme je vous disais. Ça m'a beaucoup plu. Et des choses rigolotes. Et puis j'en ai eu un petit peu marre. Ça ne m'amusait plus tellement. Et je faisais peut-être rire les autres, mais moi, ça ne me faisait plus rire du tout. Et alors, il y a eu cette grande époque du jeune théâtre. Alors, on a commencé à devenir des intellectuels, à penser beaucoup et à faire de la dramaturgie et tout ça. Et je me suis dit, tiens, je ferais peut-être bien ça, ça va me plaire aussi. Et donc, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir m'embarquer avec toute cette équipe du jeune théâtre. Et voilà.
Ouais, on reviendra sur ça tout à l'heure, hein, voilà. Comme ça vous nous embarquerez un petit peu dans cette deuxième partie.
Oui, mais c'est des parties très, très différentes, et j'ai eu la chance de pouvoir faire l'un et l'autre. Et je ne regrette pas du tout la période, parce qu'il faut quand même savoir qu'à l'époque, même à l'époque, encore aujourd'hui, mais moins, mais à l'époque, on était quand même considérés comme des riens, hein. On faisait du théâtre, on ne jouait pas Shakespeare, nous, on jouait, je ne sais plus, comme une faculté de tourner les pages, j'ai un peu oublié les auteurs, mais c'était les auteurs de boulevard, quoi.
Mais donc, on peut dire que vous avez eu plusieurs phases dans votre parcours d'actrice, une phase de théâtre plus populaire, une phase plus pointue, plus underground et plus révolutionnaire, oui. Et puis aujourd'hui, vous jouez toujours ?
Je joue toujours, oui. Oui, je joue toujours. Ben, quand on a besoin d'une très vieille, on n'est plus très nombreuses à être très vieilles. Hein, donc, fatalement, c'est pour moi. Merci. Et pour ma copine Beer aussi.
Merci, Janine.
Tragédienne ou fille de joie, reine ou SDF, la vie de Jacqueline Beer est une tirade aux multiples visages. Née en Algérie, à Oran, elle est la fille unique d'agriculteurs viticulteurs et grandit à la campagne dans un environnement simple et chaleureux. Après son mariage avec le comédien belge Claude Voltaire, c'est en Belgique qu'elle passera le reste de sa vie. Un pays dans lequel elle aura écumé toutes les planches pendant près de 70 ans.
C'est mes parents qui m'ont donné envie du théâtre. À l'âge de 9 ans, ils m'ont emmené à l'opéra et ils m'ont emmené voir Faust. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et tout de suite après, à l'école, j'ai travaillé sur les précieuses ridicules que nous avons jouées en fin d'année. Et vous voyez, tout ça m'a donné le goût de la littérature. J'avais un professeur de latin, grec et français qui nous a vraiment plongés dans la beauté des textes. Et je lui dis merci parce qu'elle m'a ouvert des portes, les portes du paradis, je dirais.
Et puis, à 18 ans, vous êtes repéré par le directeur du conservatoire d'Oran, qui vous engage, et puis vous envoie au conservatoire de Paris.
C'était quand même un monsieur qui venait de la Comédie française, ça n'était pas rien. Il a dû trouver que j'avais des qualités de base, et j'ai été reçue au conservatoire dès la première fois où je me suis présentée. Je me dis que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance.
Vous imaginiez déjà à ce moment-là la carrière que vous alliez avoir ?
Non, parce que mon but quand j'étais partie à Paris, c'était d'apprendre pour me perfectionner et de revenir pour faire un travail là-bas, localement. Heureusement que la vie s'est faite autrement et que j'ai rencontré un Belge et que je suis... On est venu s'installer tout à fait par hasard en Belgique.
De grâce, Lucie, je suis fort chatouilleuse.
Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux.
Vous vous sentez belge maintenant ?
Ouais, je me sens plus belge que française. Je trouve plus de liens entre la Belgique et les pieds noirs qu'entre la France et les pieds noirs.
France Bastoun, rebonjour.
Bonjour.
Alors, après les années 60-70 des débuts de Janine Godinas, hein, qu'on a pu partager avec elle, nous allons faire avec vous un saut dans le temps pour arriver à la toute fin des années 90. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours ?
Alors, moi, dans ma génération, on pouvait faire du théâtre, mais pas tout de suite.
Donc, oui, j'en faisais à l'école, à l'académie, mais il s'agissait d'abord de faire des études dites sérieuses. Donc, ça a convenu à mes parents que je fasse la philologie romane, donc ce qui est l'équivalent aujourd'hui des lettres. Et je ne l'ai pas regretté, parce que tout à l'heure, vous disiez que j'aimais les mots. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a en tout cas permis de m'y plonger. Et puis, je suis rentrée au conservatoire de Bruxelles. Et j'ai très vite travaillé avec Dominique Serron et l'Infini Théâtre, où j'ai vraiment appris mon métier, grâce à, notamment à des grands textes du répertoire classique et d'autres, pas classiques. Enfin, on a un peu abordé une manière... Oui, c'est ça. On a abordé les classiques d'une manière qui m'a tout de suite intéressée, c'est-à-dire savoir en quoi ça nous parle encore aujourd'hui.
Tu peux te passer de me parler d'amour, je pense.
Tu pourrais te passer de m'en faire sentir, toi. On est quelquefois filles de condition, sans le savoir.
Tout ce travail de compagnie aussi, qui ne m'a jamais vraiment quittée, parce que je remarque qu'il y a eu l'aventure du Zut aussi par la suite, qui m'a fait rencontrer des metteurs et metteuses en scène.
Le ZUT, vous pouvez préciser ?
Alors, le ZUT, c'était le Zone Urbaine Théâtre qui se trouvait à Molenbeek, qui avait été créé par Georges Ligny, qui était avec moi à l'école. Et toute notre génération a joué là ou mis en scène là. Je pense à Itzik Elbaz, Yasmina Douillet. Mais le fait que le théâtre n'a jamais reçu de l'argent public pour son fonctionnement a fait en sorte que le lieu n'a pas pu continuer son existence. Mais de nombreux acteurs, actrices de ma génération ont fait un peu leurs armes, là, à la fois comme acteurs, actrices ou metteurs, metteuses en scène. Je pense à Yasmina Douillet. Et puis, ce sont des compagnonnages qui ont perduré, qui sont restés. Je parlais de l'Infini Théâtre tout à l'heure avec Dominique Serron, qui a été sans doute une de mes longues histoires de théâtre, mais celle avec Yasmina Douillet aussi, et celle avec la compagnie Belle de Nuit également. Je crois que j'aime ces endroits où on peut aller en profondeur, continuer une histoire... même si la multiplicité des aventures est également une caractéristique que j'aime beaucoup dans notre métier, mais je crois que j'aime bien les deux.
Autre grand gagnant de la soirée, le spectacle Mademoiselle Agnès, qui repart avec le prix de l'interprète, remporté par France Bastoun.
Je suis très, très, très touchée. Interprète, les définitions que j'ai préférées dans le littré, c'est interroger entre ou de langue à langue. Comme un baiser. Non, ça, c'est pas dans le littré, mais bon, ça j'aimais bien.
Leïla Charani, bonjour. Alors, avec vous, on va à nouveau faire un saut dans le temps, hein, puisque vous êtes sortie de l'école pas longtemps avant le Covid. Ça s'est passé comment pour vous ?
Comment je suis arrivée au théâtre ? Je suis d'abord arrivée dans la musique. J'ai grandi avec la musique, le piano surtout, le chant. Enfin, j'ai fait beaucoup, beaucoup de musique enfant. Il y avait beaucoup de musique à la maison, mon père était musicien. Et quand j'ai commencé à devoir faire des études, il y avait quand même beaucoup cette chose de... Il faut faire quelque chose de sérieux aussi. Donc j'ai fait des études de langue, parce que je voulais être interprète. Donc je suis partie en Allemagne et j'ai appris l'allemand, l'anglais, l'italien. Et puis, en fait, ça m'allait pas, je crois, d'être derrière un bureau et de traduire des textes. Et du coup... Cette année-là, quand j'étais en Allemagne, j'ai commencé à faire beaucoup de musique et à faire beaucoup de scènes. Et en fait, en étant sur scène, je me suis dit que c'était ça.
Ma matière grasse entre en contact avec ma matière grise. Le mythe qui dit que la cellulite de mes miches est moche m'habite, mais nique la peau lisse, vive la peau d'orange, peau d'orange.
Je sais pas, j'avais été à Avignon l'été d'avant et j'avais vu des spectacles qui m'avaient impacté. Je m'étais dit, mais en fait, on peut être payé pour faire ce métier. Et j'ai envie de faire ça. Alors après, il a fallu le faire accepter aux autres,
Mais voilà, j'ai commencé du coup dans deux écoles à Lyon. Puis après, je suis arrivée ici, à Mons d'abord. J'ai fait mes 4 ans chez Frédéric Dussen. Et puis après, je suis sortie et j'ai tout de suite travaillé avec lui, entre autres. Et puis avec d'autres personnes. Après, bon, ça a été très vite le Covid, donc... disons que je peux pas vraiment dire que j'ai déjà beaucoup derrière moi. Je suis plutôt sur les débuts. Mais en tout cas, ce qui m'a appris, ça a été, je pense, le fait d'avoir fait plusieurs écoles différentes. Et quand on était à l'école avec des amis, on a monté un projet, enfin un projet de théâtre de rue, qu'on a été jouer tous les étés dans la rue. Et ça, je crois que ça a été quand même une bonne façon de se former aussi, d'aller sur le terrain, dans un endroit où on nous écoute pas forcément. J'ai l'impression d'avoir appris énormément d'outils. Et voilà, je suis sortie en 2019, donc depuis j'ai beaucoup travaillé en fait, je me rends compte, avec plein de gens différents. Et je suis multifonction un peu, on m'appelle pour plusieurs choses. Là dernièrement, j'ai travaillé avec le Raoul Collectif comme accordéoniste. Donc j'ai l'impression d'avoir un rapport à la scène qui est à la fois parfois musical, parfois théâtral, parfois les deux. C'est pas mal, en fait, je trouve. Ça me permet d'avoir aussi une distance avec certaines choses du métier qui me plaisent moins. Quand j'en ai marre, je vais faire de la musique, quoi.
Je suis elle et pas
c'est
elle.
C'est beaucoup. Trop, peut-être. Une actrice.
Pour avoir une actrice, il faudrait un théâtre.
Nous n'avons qu'un empire.
Avons. Moi, je dirais avion.
Tais-toi, pas encore. Peut-être pas. Tout n'est peut-être pas fini. Pas tout.
Actrice, est-ce le plus beau métier du monde ?
Ah, pour moi, oui. C'est le plus beau métier du monde, pour moi, oui.
Pourquoi ?
Je continue à le dire. D'abord parce que je peux partager avec le reste du monde, si j'ose dire, tout, mes questions. Je crois que c'est un beau métier parce que nous pouvons publiquement poser les questions ensemble, que chacun rentre chez soi avec la question et qu'il puisse... dans sa cuisine, dans son lit, n'importe où, dans son salon, reposer la question et la retourner, et la retourner, et la retourner. C'est en ça que je trouve qu'on a le plus beau métier du monde. Avoir quelqu'un de sang et d'os en face de nous et pouvoir partager avec lui ça, je crois que c'est un art pour ça qui est magnifique. Et je pense que parfois on dit « ouais, mais le théâtre, avec tout ce qui se passe, il va diminuer, il va s'éteindre ». Non, c'est impossible. C'est impossible parce que nous sommes un corps ou des corps face à d'autres corps. Et ça, c'est sublime.
France, est-ce que actrice, c'est une drogue ?
Quelle question. Si je la compare à mes autres addictions, je dirais que c'est une drogue de bonheur. Alors, non, je pense que... c'est un artisanat, c'est un métier. On peut aussi dire que c'est un art, mais je ne pense pas que ce soit une drogue, non.
Léla, actrice, est-ce une manière de s'échapper de soi-même ?
Oui, je pense. Je pense quand même. Enfin, je pense que c'est une façon d'aller voir en soi les millions de soi qu'on n'aurait peut-être pas l'habitude de donner vie dans la vie normale et de leur donner vie pour le temps d'une création, d'un spectacle. Et parfois, ils restent un peu aussi à l'intérieur. Ça, c'est assez gai. Je pense que c'est aussi une façon d'ouvrir sa palette personnelle de ce qu'on est et aussi du coup de ce que sont les autres parce que c'est aussi une autre façon de regarder les autres. On regarde pas sur scène son partenaire comme on va regarder les gens dans la rue. Donc ouais, je pense que c'est une façon de... ça grandir en tout cas.
En quelques mots, c'est quoi l'art de l'acteur ? Comme ça, ou si vous aviez une image ou...
Marielle Ostrowski.
Moi, je dirais l'empathie. L'empathie, c'est ce qui me vient en premier lieu. Okay. Et la disponibilité, voilà.
Véronique Bieffi.
Moi, par rapport à ce que j'ai pu vivre sur des scènes, c'est le silence, en fait. C'est pas les mots, c'est le silence. J'ai parfois eu l'impression d'une espèce de magie quand tu dis une phrase et qu'il y a une espèce de silence derrière et que tu sens que ce silence... est habité et gagne les gens qui t'écoutent. Et le silence est plus, quelque part plus important que les mots qu'il y a eu avant ou qu'il y aura après. Et ça, c'est la magie du théâtre, pour moi.
Manuela Servet.
Et puis aussi, arrêter de penser trop à soi, mais plus écouter l'autre, et ça rejoint à ce que tu dis.
Ah oui,
d'être plus à l'écoute de l'autre que de son image, sa façon de penser, de sortir son émotion, de est-ce que je suis bien, est-ce que je... Non, non, surtout, tu seras bon si tu penses à l'autre, si tu écoutes l'autre, si tu comprends l'enjeu d'une scène. Et puis, scène après scène, tu construis une pièce, et voilà. Mais tu m'avais dit 2-3 mots, donc voilà.
Nicole Oliver.
Mais ouais, je crois que l'art de l'actrice, c'est vraiment, avec l'expérience que ça vient, c'est quand on est jeune, on a envie peut-être d'être plus présent dans le regard de l'autre, de faire plaisir à l'autre, etc. Et c'est vraiment, au fait, se dégager de ça.
Oui.
C'est d'être soi-même, en fait, et d'exprimer à travers son art sa personnalité, son tempérament, et avoir le plaisir de partager ça. Et je pense que ça, franchement, ça va avec aussi avec l'expérience. Et c'est pour ça qu'il faudrait un peu plus de rôles pour les actrices qui sont plus âgées.
Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du théâtre ? C'est un spectacle, une pièce de théâtre ? Quel a été l'élément déclencheur ?
Je pense à Orgie de Pasolini, mis en scène par Marc Libens. Et je me souviens qu'il y avait un homme tout nu, avec un chapeau melon, et je pense que c'est en tout cas une des raisons qui a fait que, voilà, que j'ai retenu ce spectacle, évidemment, où je me disais, oh, en fait, tout est permis sur une scène. Bon, c'est peut-être lié aussi au fait qu'on peut vivre plusieurs vies quand on est sur scène, et il y a quelque chose de l'ordre de la liberté, sans doute.
Ben, moi, le tout premier, sans doute, ça devait être Georges Dandin. Je devais avoir 8-9 ans.
Et c'était où ?
C'était à Dinan, au casino de Dinan. Et comme je voulais absolument faire du théâtre, mes parents avaient fini par dire « on va aller voir ça ». C'était une équipe qui s'appelait le Théâtre de l'Équipe.
Ah oui, le Théâtre de l'Équipe.
Où j'ai joué très longtemps aussi. Donc c'était mon premier spectacle, ça s'appelait Georges Dandin. Mais le souvenir qui m'en reste, c'est pas vraiment le spectacle, c'est la foule des gens devant le théâtre qui attendaient pour rentrer. Et ces gens qui étaient réunis, qui se connaissaient pas, qui étaient réunis pour venir voir quelque chose. Et j'en ai toujours des marques aujourd'hui de ça. Mais c'est comme ça que ça a commencé, bien plus que la fascination du spectacle. Voir ça m'a complètement, ouais, boosté, enfin, comme on dit aujourd'hui.
Moi, un des souvenirs qui me vient là, c'est j'étais enfant, je devais avoir 7 ans, et on était partis en vacances, je crois en Normandie, mais vu que j'avais 7 ans, c'est très flou. Et on était dans la forêt, et on avait vu un Shakespeare dans la forêt. Mais avec, je me souviens d'un très grand gradin, il était peut-être pas si grand, mais... Et j'ai surtout en effet le souvenir du moment passé, dans cette forêt, il y avait des chevaux. Enfin, c'était assez... j'ai un souvenir que c'était assez incroyable. Et je me souviens de la couverture qu'ils nous avaient donnée, pour qu'on n'ait pas froid. Et donc on était tous à côté les uns des autres, et on avait nos couvertures sur nous. Et c'était pas particulièrement pour les enfants, c'était vraiment un spectacle. Et j'ai le souvenir de ce moment où c'était pas comme le cinéma ou comme les dessins animés, c'était on était tous là ensemble en live avec des corps de personnes en live et un animal, et je trouvais ça complètement dingue, ce truc de, il y avait de la magie, on y croyait, on n'était plus dans la forêt, mais et en même temps tout ça n'existait pas, enfin voilà, je crois que ça m'a vraiment marqué,
être ensemble et puis toucher à la magie
et à l'imaginaire.
C'est quoi une bonne actrice?
Ah, oh bah écoute.
Quelqu'un qui désapprend, qui peut se mettre au service, en ouverture de l'autre. Oui, quelqu'un qui désapprend, je dirais ça. En un mot.
Quelqu'un qui écoute ses partenaires, parce que c'est plus important ce qu'on dit de par exemple, si on prend le personnage, c'est plus important ce qu'on dit du personnage, même quand il est hors scène éventuellement, que ce qui est dit quand il est en scène. Et c'est plus important la réaction par rapport à ses partenaires que la réaction propre de... Donc une bonne actrice est une bonne personne qui écoute ce que les autres disent.
Pour moi, une bonne actrice, c'est une actrice qui est bien roulée.
Bon,
mais je dois être très mauvaise alors.
Janine, quels sont Quelles sont les qualités nécessaires pour devenir comédienne ?
Oh, ça, ça, je n'en sais rien. Travailler, énormément travailler. Je crois que c'est un métier qui demande beaucoup. Faire don de soi, se mettre un peu à l'arrière. Être ouvert, pas seulement aux émotions, mais aussi ouvert aux idées. Parce qu'en tant que comédienne, on doit faire côtoyer beaucoup d'idées. Il faut qu'on les entende bien, il faut les faire entendre, de façon à ce qu'on soit bien citoyen jusqu'au bout. Et alors les qualités, bah oui, c'est être ouvert, écouter, entendre, travailler, le don de soi, la joie, le plaisir. Je crois que il faut avoir le plaisir de donner du plaisir. Je crois que si on est heureux en scène, si on a du plaisir, je crois qu'on le donne à celui qui regarde. Si on fait ça pour soi, on ne peut pas le partager. Ce n'est pas ouvert à l'autre. Je crois qu'il faut donner. Et alors, ce qu'il faut pour être comédienne, voilà, je crois que... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut être... Je ne sais pas, peut-être... vouloir développer ses émotions, vouloir dire, vouloir parler, vouloir donner. Voilà, je ne sais pas. Comme j'étais un petit peu professeur, par exemple, je regardais les jeunes, je n'ai jamais rien appris à ces jeunes. Que ce soit clair, je le dis franchement, on n'a rien à apprendre. La personnalité, ça ne s'apprend pas, je veux dire, on l'a ou on ne l'a pas. Je peux dire vite une petite anecdote ?
Oui, bien sûr.
J'ai travaillé avec un metteur en scène tchèque extraordinaire qui s'appelait Alfred Radok. Il faisait passer des auditions et les auditions chez Alfred Radok se passaient comme ceci. Il faisait entrer les comédiens, il les faisait traverser le plâtré de cour à jardin. Le comédien devait s'asseoir sur une chaise, se lever, déplacer la chaise. Et après, il disait oui ou non. Il fonctionnait uniquement sur la présence, comment fonctionner avec son corps sur un plateau, et regarder le regard. Il regardait le regard du comédien. Comment il parlait, comment il causait, ça s'apprend toujours et assez facilement. Mais la présence, ça ne s'apprend pas. On l'a ou on l'a pas. Voilà, ça c'est mon avis.
Aujourd'hui, vous êtes 40, et à la fin de ce stage, vous serez 12.
On est tous pris, là.
Je m'appelle Pierre Roman et je suis le directeur de l'école. Patrice Chéreau est le directeur du théâtre.
Vous allez bien ?
C'est le centre de l'Europe, ce théâtre.
L'important, c'est le travail. C'est pas la présence sur scène. Et je vous le dis tout de suite, je pourrais pas être démocratique avec vous.
Soit vous menez une vie normale, soit vous devenez actrice et là, vous brûlez vos vies.
C'est un métier de pute et de pédé qu'on fait.
Exactement. Un jour, il va plus se retenir, un jour.
Dans votre vie, ça vous atteint, les histoires d'amour. Ça vous fait souffrir, ça vous fait rire, ça vous fait pleurer. C'est la vie que vous êtes censé représenter.
Vous pensez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une formation ?
Ah si, je n'ai pas dit ça. Je veux dire que je suis quelqu'un qui obligerait aux jeunes comédiens d'apprendre des alexandrins et de les dire sans respirer. 12 alexandrins d'un coup sans respirer, de façon à donner son corps. Nous, comédiens, notre instrument, c'est notre corps, c'est notre violon, c'est notre violoncelle. Donc, il faut lui donner la cage de résonance qu'il faut pour que le son puisse sortir bien. C'est évident. Il faut. Mais je veux dire qu'on peut avoir une technique magnifique et ne rien valoir. Enfin, on peut avoir une technique magnifique et les gens ne vous regardent pas.
Oui, c'est ça.
Il y a des gens qui ont raté leurs études et qui sont magnifiques, et des gens qui ont eu le premier prix de conservatoire qui ne foutent rien. C'est fragile, cette chose-là. C'est pas mathématique, je veux dire, c'est pas 1 + 1 = 2, c'est beaucoup plus sensible que ça.
Et c'est difficile pour ça.
Vous pouvez me rappeler les formations? Donc vous étiez
au conservatoire de Mons.
Conservatoire de Mons.
Conservatoire de Bruxelles.
Bruxelles aussi. Vous pouvez un petit peu partager quel cours on a, comment ça fonctionne brièvement. On ne va pas passer trois heures dessus, mais quels sont les cours que vous avez au conservatoire ou que vous avez eu? Des cours de formation corporelle?
Oui. Très peu. Enfin, moi, j'en ai pas eu. Hein. Danse, chant, tout ça. Moi, j'ai pas eu ça. Hein. J'ai eu des cours de théâtre, enfin d'interprétation, de déclamation, c'est-à-dire de la poésie, histoire du théâtre, ça quand même, histoire de la littérature, quand même. Mais c'est tout.
Alors, vous fonctionniez par projet ou vous c'était des scènes?
Ah ben on apprenait une scène ou de Molière ou de Shakespeare ou de Pirandello et on l'apprenait et puis on l'étudiait et puis on venait la dire et puis enfin, de mon temps.
Et quels étaient
aujourd'hui ça ne se passe plus comme ça.
Qui étaient les professeurs à l'époque?
Il s'appelait André Bernier. C'était un acteur du Théâtre du Parc.
Et t'avais un seul professeur?
Non, moi j'ai eu André Bernier, ouais. Mais il y avait aussi. Hélène Lefebvre, voilà. Hélène Lefebvre. Mais moi, je n'ai pas eu Hélène Lefebvre, j'ai eu Bernier. C'est lui, d'ailleurs, que j'ai eu à l'Académie de Namur, et c'est lui qui m'a dit « Risque Bruxelles ». Voilà, c'est comme ça que je suis arrivée là.
Et ça représentait combien de d'heures par semaine?
Tous les jours.
Tous les jours, la journée.
Ça devait faire une heure tous les jours, oui. Une heure... pour moi, pour chacun, hein, évidemment. Ouais. Mais on n'y apprenait pas grand-chose, sinon attention à l'articulation, sinon tu parles trop vite. Voilà, je veux dire, je n'y ai pas appris grand-chose.
Et vous commenciez déjà à travailler pendant que vous en même
c'était,
temps.
C'était une époque où on pouvait travailler en étant à l'école. Il faut dire aussi que mon cas, en tout cas, moi, si je ne travaillais pas, je ne mangeais pas. C'était assez simple. Ou je ne pouvais pas payer ma mansarde. Hein. J'avais quitté mes parents, j'avais rien. Donc, il fallait que je travaille. Et heureusement, j'ai joué vite, mais aussi j'ai été vendeuse à l'innovation pour manger.
Moi, j'étais dans le même cas. Quand j'étais au conservatoire, je travaillais en même temps. Et donc, je me suis servi de mon diplôme de romane pour pouvoir... Voilà, je donnais cours et en même temps, je suivais des cours. Donc, j'étais à l'école des deux côtés. Mais à ce moment-là, ça commençait quand même à être moins toléré. Il y avait en tout cas des écoles où on ne pouvait pas du tout le faire. Et le conservatoire l'acceptait encore un peu. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette école-là, parce que je savais que je pouvais gagner ma vie, parce que je n'étais plus non plus chez mes parents.
Donc, vous pouviez travailler et en même temps suivre votre formation. Et vous étiez dans quelle classe? Quels étaient vos professeurs?
Alors moi, le professeur titulaire était Michel Lewarzé. Et il avait comme assistante Dominique Serron. Et c'est comme ça que j'ai travaillé avec elle, alors que voilà, j'étais encore au conservatoire. Il y avait Daniel Hansens aussi, qui était chargé de cours. À l'époque, il y avait, oui, des maîtres avec leurs assistants.
Et vous fonctionniez par projet plutôt, alors?
Par demi-année, oui. On fonctionnait par demi-année, oui. Alors, on travaillait des textes ou des projets en fonction.
Et il y avait aussi des cours de formation corporelle
et vocale. Mais aujourd'hui, l'enseignement supérieur artistique est aligné sur l'université, donc il y a beaucoup plus de cours théoriques...
Elle est là, vous ouais, avez...
Moi, j'avais des cours de sociaux, de philo, d'histoire de l'art. Après, moi, j'avais déjà fait des études à l'université, donc je me suis fait quelques dispenses, oui. Parce que ça m'allait bien. Il y avait histoire du cirque, histoire de la performance.
C'est bien, ça.
C'était super chouette. Ça, ouais. Et même, oui, par rapport à tout ce qui est... on avait beaucoup de cours de danse, beaucoup de cours de chant, cours de voix. Et ensuite, on travaillait, nous, par projet. On était plutôt sur 3-4 projets par an. Avec à chaque fois des intervenants différents. On était plutôt sur 35 heures par semaine, quoi. C'était assez... je sais qu'il y en a certains qui travaillaient à côté, mais c'était quand même sport, quoi, de faire les deux.
Sophia ?
Didier, il est super dur avec moi.
Sophia, c'est gentil, tu nous donnes une bonne réplique.
Il me dit tout le temps que genre tout ce que je fais, c'est pas bien.
Ah, c'est pas parce que t'es loin que tu dois jouer mal encore.
Devant les caméras, il fait semblant d'être très gentil avec moi.
Non, mais j'aime bien Sophia. C'est une travailleuse, c'est bon, tu filmes. Elle est méritante. Elle est coupée.
franchement, je m'attendais pas à ça.
Moi, j'aime bien mettre à l'aise les acteurs.
Didier, en tant que directeur, pour diriger l'équipe, il est mauvais.
Ces petits silences, c'est bien, ça fait toujours, mais c'est bien.
Il finit jamais ses phrases, tu comprends jamais ce qu'il veut dire.
Bon, on en fait une dernière en essayant de le lier, tu vois.
Essaye de lier. Je comprends pas ce que ça veut dire. Enfin, moi, perso, j'ai eu du mal.
Essaie de le lier, ouais. Essaie de lier un peu les trucs, tu l'as bien lié, c'est bien.
Paul, si tu peux le ramasser et un peu lier le truc.
Je pense que même lui, c'est pas ce qu'il veut dire.
Ou alors le faire, mais plus...
Et après, je blanc.
Alors, quelle est la phrase qui vous a fait le plus avancer dans votre métier d'actrice, hein, ou la phrase la plus horrible?
Moi, je me sens d'un prof qui m'a dit, parce que j'arrivais pas à pleurer sur une scène où je devais jouer Rodrigue et... comment ça s'appelle ? Chimène. Il m'avait dit, de toute façon, t'as pas de sensibilité. Et ça m'a tenu, je pense, les 5 ans de mes études. Et c'est un prof, un jour, qui m'a dit, attends, mais touche-moi la main, tu sens là ? Bah, c'est que t'as de la sensibilité. Et ça m'a comme débloqué, mais longtemps après. J'ai passé vraiment 5 ans à penser que j'étais incapable d'avoir une émotion. Parce que ce type m'avait dit ça hyper jeune, quoi. Ouais.
France ?
Moi, oui, c'est aussi un prof qui m'a fait pleurer. Et puis qui m'a dit, voilà, c'est comme ça que tu dois être. Donc ça m'avait... j'étais pas d'accord, évidemment, avec ça. Parce que, voilà, je suis pas pour le fait qu'on doive souffrir pour jouer. Je trouvais que c'était rude comme manière de faire comprendre la chose. Mais ça m'a marqué. C'est vrai.
Janine ?
Plus la contrainte est forte, plus la liberté est grande. C'est aussi le metteur en scène tchèque. Et j'ai gardé cette phrase-là parce qu'on l'a vécu. Et je ne me suis jamais sentie aussi libre dans le travail que là. Mais la contrainte était épouvantable. Parce qu'après avoir eu cette contrainte pendant 3 semaines, il nous disait « Maintenant, vous faites ce que vous voulez. » Et c'était génial. On ne pouvait plus être à côté, mais on faisait ce qu'on voulait. C'était fantastique. Donc, plus la contrainte est forte, plus la liberté est grande.
Alors, est-ce que tu arrives à vivre de ton métier ?
Oui. J'ai envie de dire, j'ai la chance. Mais en fait, c'est pas une chance, putain de bordel de merde. C'est un droit.
Oui, et depuis 40 ans. Et c'est vrai que c'est une chance aussi, j'ai envie de dire. Mais... J'ai très très peur pour les générations qui viennent parce que je pense que ça sera beaucoup moins évident.
J'ai pu, mais là c'est beaucoup beaucoup plus difficile. Ouais. Pour des raisons de quand on se positionne ou quand il y a des choses, des choses, oui, pour lesquelles on doit se positionner. Voilà. Très souvent, ben on est vite écarté, en fait. On est vite écarté par le milieu ou par la direction. Ouais, ça va très vite.
Si on cumule toutes les fonctions, on parvient à en vivre. C'est pas évident de n'en avoir une qu'une.
Oui.
Et puis aussi, ça dépend évidemment du niveau de vie qu'on a. Si on est humble, simple, oui. Si on veut un peu plus de luxe et tout, il faut vraiment très vite bien gérer son argent et se limiter parce que c'est impossible de vivre luxueusement, d'après moi.
J'arrive à vivre de mon métier, mais parce que j'ai appris à me diversifier aussi.
Ah oui,
je ne fais pas qu'une seule chose, je ne vais pas que dans une direction. Je fais plein d'autres choses. Je ne fais pas que jouer. Je donne des cours, je fais du théâtre dans des entreprises. Je ne fais pas que jouer au théâtre. Donc oui, c'est possible d'en vivre si on a cette flexibilité, ce sens de l'adaptabilité.
Oui. C'est justement la question que j'avais à vous poser. Est-ce que vous arrivez à vivre de votre métier ? Ou est-ce que, comme à vos débuts, vous devez avoir un autre métier non artistique sur le côté ?
Alors, moi, j'arrive à en vivre, mais disons qu'il s'est démultiplié. Donc ici, nous sommes surtout là pour parler de théâtre, mais c'est vrai que il y a le théâtre, mais il y a aussi l'audiovisuel, donc que ce soit les séries, le cinéma, il y a la post-synchronisation, enfin, le doublage, il y a l'enseignement, donc. Voilà, j'ai la chance que cela touche toujours à mon métier d'actrice, évidemment. Mais on dit souvent qu'en France, on est davantage ou bien acteur de cinéma ou acteur de théâtre ou acteur de doublage. J'ai l'impression qu'en Belgique, on navigue entre le tout. Et ça aussi, c'est une richesse. Enfin, être une enseignante qui travaille, qui joue, c'est plutôt une chance pour les étudiants.
Moi, je n'ai jamais fait que du théâtre. Je n'ai vécu que de ça. J'ai passé 10 ans en France aussi. Je n'ai fait que du théâtre. Je n'ai rien fait d'autre. Oh ouais, j'ai fait des tournages par-ci, par-là. Mais enfin, on ne va pas en parler parce que ça ne vaut même pas le coup. Mais j'ai fait que ça. J'ai fait que du théâtre.
Et l'enseignement.
Ah oui, pardon. Oui. J'ai quand même enseigné, oui. Mmh. Oui, pardon.
Léla ?
Moi, je vis du théâtre.
Et de la musique aussi, tu disais
Ouais, et de la musique, c'est ça. Je joue, je fais des concerts. Des fois, l'année passée, je suis allée faire prof à Liège avec Romain David, par exemple. Mais, enfin voilà, en soi, je fais rien d'autre que de l'artistique. Mais bon, j'ai pas d'enfant, je vis en coloc. On peut dire que j'ai une vie qui me permet de vivre avec quand même un petit salaire, quoi.
Pour terminer cet épisode d'Elyon sur les actrices de théâtre, je vous propose de partager ensemble avec nos auditeurs les étapes du processus de création.
D'abord, comment vient l'étincelle? Alors ici, on peut vraiment... c'est une discussion ensemble. L'étincelle, elle peut venir parfois d'une rencontre avec un autre acteur. Elle peut venir d'une rencontre
avec un auteur, avec une autrice.
Oui, un auteur, un metteur en scène. Ça peut être une commande, ça peut...
Des partenaires. Envie de jouer ensemble.
Qu'est-ce qu'il y a encore comme possibilité? Ça pourrait être aussi un directeur de théâtre, un moment, qui a envie de vous voir dans son théâtre.
Oui.
Il faut quand même préciser que c'est rarement le comédien
qui a l'initiative
de ça. On est engagé par un metteur en scène, par un directeur. Nous avons quand même, peut-être sur des équipes qui se sont faites comme ça, maintenant comme ça se fait, mais dans les institutions, ce n'est jamais un comédien qui réunit d'autres comédiens, qui engage un metteur en scène pour travailler. Donc, on est confronté à ce qu'on va rencontrer, sauf si on fait son truc soi-même.
Un collectif de comédiens, ça arrive de plus en plus.
Je veux dire,
chez les jeunes comédiens, il y a encore l'acteur créateur.
Ça, oui.
Et après, ça part dans les institutions. Mais il y a les deux vecteurs. Oui. Il y a les institutions où là, en effet, on est plus appelé. Et puis après, quand on n'est pas appelé, il faut bien s'appeler soi-même.
Et il y a encore des auditions. C'est rare, mais il y a quand même le système du CAS qui concerne les jeunes sortis de l'école depuis 3 ans, 2 ans ou 1 an, qui sont conviés à des rencontres avec des porteurs de projets. Voilà, ça c'est l'audition la plus courante. Maintenant, c'est vrai que certains théâtres organisent encore parfois des auditions.
Mais c'est très rare.
Oui, ouais. Mais c'est rare.
Alors, une fois qu'on est embarqué dans un projet, il y a la première lecture. Qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez sur un projet et que vous vous retrouvez autour de la table pour une première lecture?
Alors, c'est une fausse première lecture, puisque souvent, on a reçu le texte avant et qu'on l'a lu dans l'intimité.
Soi.
Voilà, dans sa propre intimité avec ses propres projections de lecteur ou lectrice sur le texte. Et moi, je trouve que c'est un moment tout aussi précieux, parce que c'est le premier contact. Et donc, quand on vient à la lecture avec toute l'équipe, on est déjà riche aussi de sa lecture personnelle. Donc, on remet sur la table, il y a la rencontre de toutes ces intimités, mais qui sont déjà chargées de quelque chose, moi, je trouve.
Et alors, souvent, vous connaissez certains comédiens, d'autres pas. Comment ça se passe, cette première lecture, en général? C'est intimidant ou c'est, en général, bon vivant?
C'est excitant, moi. J'ai l'impression que c'est plutôt un moment où on voit déjà les prémices de... Parce qu'on voit, on sent les énergies, on voit les corps, on entend les voix. Donc, il y a quand même quelque chose où on commence déjà à avoir une sorte de vague idée de ce que ça va être, et ça donne plutôt envie de...
Il y a parfois des gens qui ne passent pas par la première lecture. Il y a des metteurs en scène qui demandent que le texte soit su et qui commencent par un premier filage. Mm-hmm. Donc un filage, c'est se lancer sur le plateau...
directement.
Connaître... Oui, oui, moi j'ai déjà vécu ça.
Très souvent aussi, mais je peux dire quelque chose à ce sujet? Ça, c'est horrible.
C'est horrible, oui. Moi, je trouve ça...
C'est horrible pour mettre un comédien. C'est horrible.
Oui, c'est vraiment affreux.
Voilà, c'est dit.
C'est de la perversité. Je suis désolée. C'est de la perversité. C'est d'autant plus pervers qu'en faisant faire ça aux comédiens, ça donne des tonnes d'idées déjà au metteur en scène, qui n'a pas dû travailler beaucoup avant, pas comme nous, qui avons déjà dû étudier pendant longtemps et avoir la trouille. Lui, il arrive, et c'est à peine s'il a eu le texte, enfin bref, et je trouve ça d'une perversité atroce. Et voilà, et je l'ai dit.
Oui, tu dis lui. C'est vrai que c'est, moi, ça m'est arrivé aussi avec des hommes. Ça m'est jamais arrivé avec une metteuse en scène.
Ah, ce genre de... Ce filage, ce premier filage horrible.
Oui, moi aussi.
Oui, moi non plus. Ah. D'ailleurs, ça ne m'est jamais arrivé qu'avec un metteur en scène.
Alors ensuite, on va passer à l'étude du texte. Alors, c'est vraiment... Souvent, le public est très impressionné par comment est-ce que vous faites pour retenir tout ce texte. Et finalement, pour les acteurs, c'est pas toujours là que c'est le plus difficile. Comment vous vivez cette période d'étude du texte? Comment vous étudiez? En marchant?
Je trouve que c'est la partie la plus facile, je trouve. La mémorisation, c'est quand même un truc technique, je veux dire.
Mais il y en a
plein. Ou alors on a un problème au cerveau et ça c'est autre chose. Ou on a des problèmes de mémorisation, mais ça c'est pour tout. Mais je trouve que ce qu'il y a de plus facile au théâtre, pour un comédien, c'est de mémoriser.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. J'ai parfois quand même... Ça dépend un peu la matière, ou ça dépend un peu l'enchaînement des projets. Mais parfois, j'ai l'impression que mon cerveau va exploser de mots quand je dois étudier. Et c'est vrai que je n'étudie pas toujours de la même manière. En fonction si c'est un monologue de 80 pages ou si c'est une pièce avec des répliques, c'est vrai que le monologue, je marche dans la forêt, ça je me souviens que j'avais fait ça pour Girls and Boys parce que c'était pendant le confinement et que c'était la seule chose qu'on pouvait faire. Donc, mais sinon, parfois, il y a des applications sur les téléphones où on préenregistre le texte et on peut répéter à voix haute. Puis parfois, c'est au fluo et c'est visuel. Donc moi, en fait, je me rends compte que c'est très différent selon les projets. Parfois, j'étudie en musique. La musique a aussi une place importante dans le processus de travail.
C'est une question d'heure.
Une question
d'heure.
D'heure.
De temps, de moment. Mon cerveau prend tout entre 6h et 8h du matin. Après, ce n'est même plus la peine. Donc, il faut que j'étudie entre 6h et 8h.
Ça demande une sacrée discipline.
Ouais.
Oui.
Et toi, Léla ?
C'est une question d'espace, je dirais. J'essaie de l'apprendre partout, en faisant la vaisselle, en prenant ma douche, en discutant avec mes colocs. Apprendre à dire son texte tout en faisant une conversation avec quelqu'un d'autre.
Ça descend bien, quoi.
Oui, de l'avoir dans un endroit qui n'est plus du tout de la tête, quoi.
Ouais.
Pour pouvoir après faire n'importe quoi et qu'il soit là et qu'il sorte. Et après, ça dépend si c'est beaucoup de dialogue, par exemple, donc il y a beaucoup besoin de répondre à l'autre. J'essaye aussi d'apprendre en général le texte de l'autre, ou en tout cas la fin des répliques de l'autre. Enfin,
de toute façon, c'est très difficile de vraiment connaître le texte tant qu'on n'a pas pratiqué avec ses partenaires. Je trouve que c'est pour ça que c'est tellement horrible cet exercice du premier filage texte su, parce qu'en effet, c'est quand on entend l'autre donner le texte et qu'on retient le sien. Enfin, c'est vraiment tellement le processus du plateau et du corps qui entre en ligne de compte à ce moment-là.
Je suis sûre que, comme moi, vous avez envie d'entendre la suite. Et dans notre prochain épisode sur les actrices de théâtre, nous parlerons des répétitions, de la dernière semaine, des cauchemars récurrents de l'acteur, du jour de la première, des accidents de représentation. Nous parlerons également des défis et des questionnements des actrices, du fait de vieillir dans ce métier. Et nous aborderons quelques questions sociétales et réflexions sur le métier. Nous reviendrons bien entendu également sur l'histoire du théâtre en Belgique et des actrices qui ont marqué notre petit pays.